car c'est donc aujourd'hui, pensa-t-il, aujourd'hui même, tantôt. Mais peu à peu, ses espérances et ses souvenirs, Nogent, la rue de Choiseul, Madame Arnoux, sa mère, tout se confondait. Un bruit sourd de planche le réveilla. On traversait le pont de Charenton, c'était Paris. Alors, ses deux compagnons, ôtant l'un sa casquette, l'autre son foulard, se couvrirent de leurs chapeaux et causèrent. Le premier, un gros homme rouge en redingote de velours, était un négociant. Le second venait dans la capitale pour consulter un médecin, et craignant de l'avoir incommodé pendant la nuit, Frédéric lui fit spontanément des excuses, tant il avait l'âme attendrie par le bonheur. Le quai de la gare se trouvant inondé, sans doute, on continua tout droit, et la campagne recommença. Au loin, de hautes cheminées d'usines fumaient. Puis on tourna dans Ivry. On monta une rue. Tout à coup, il aperçut le dôme du Panthéon. La plaine, bouleversée, semblait de vagues ruines. L'enceinte des fortifications y faisait un renflement horizontal, et sur les trottoirs en terre qui bordaient la route, de petits arbres sans branches étaient défendus par des lattes hérissées de clous. Des établissements de produits chimiques alternaient avec des chantiers de marchands de bois. De hautes portes, comme il y en a dans les fermes, laissaient voir, par leurs battants entr'ouverts, l'intérieur d'ignobles cours, pleines d'immondices, avec des flaques d'eau sale au milieu. De longs cabarets couleur sang de bœuf portaient leur premier étage, entre les fenêtres, deux queues de billard en sautoir dans une couronne de fleurs peintes. Ça et là, une bicoque de plâtre à moitié construite était abandonnée. Puis, la double ligne de maisons ne discontinua plus, et sur la nudité de leur façade se détachait, de loin en loin, un gigantesque cigare de fer blanc pour indiquer un débit de tabac. Des enseignes de sage-femme représentaient une matrone en bonnet, dodelinant un poupon dans une courte pointe garnie de dentelles. Des affiches couvraient l'angle des murs, et aux trois quarts déchirées, tremblaient au vent comme des guenilles. Des ouvriers en blouse passaient, et des haquets de brasseurs, des fourgons de blanchisseuses, des carrioles de bouchers. Une pluie fine tombait, il faisait froid, le ciel était pâle, mais deux yeux qui valaient pour lui le soleil resplendissaient derrière la brume. On s'arrêta longtemps à la barrière, car des coquetiers, des rouliers et un troupeau de moutons y faisaient de l'encombrement. Le factionnaire, la capote rabattue, allait et venait devant sa guérite pour se réchauffer. Le commis de l'octroi grimpa sur l'impériale et une fanfare de cornet à piston éclata. On descendit le boulevard au grand trot, les palonniers battant, les traits flottant. La mèche du long fouet claquait dans l'air humide. Le conducteur lançait son cri sonore. « Allume, allume, ohé !» Et les balayeurs se rangeaient. Les piétons sautaient en arrière, la boue jaillissait contre les vasistas. On croisait des tombereaux, des cabriolets, des omnibus. Enfin, la grille du jardin des plantes se déploya. La Seine, jaunâtre, touchait presque au tablier des ponts. Une fraîcheur s'en exhalait. Frédéric l'aspira de toutes ses forces, savourant ce bon air de Paris qui semble contenir des effluves amoureuses et des émanations intellectuelles. Il eut un attendrissement en apercevant le premier fiacre, et il aimait jusqu'au seuil des marchands de vin garnis de paille, jusqu'aux décrotteurs avec leurs boîtes, jusqu'aux garçons épiciers secouant leurs brûloirs à café. Des femmes trottinaient sous des parapluies. Il se penchait pour distinguer leurs figures. Un hasard pouvait avoir fait sortir Madame Arnoux. Les boutiques défilaient. La foule augmentait, le bruit devenait plus fort. Après le quai Saint-Bernard, le quai de la Tournelle, et le quai Montebello, on prit le quai Napoléon. Il voulut voir ses fenêtres, elles étaient loin. Puis on repassa la Seine sur le pont Neuf, on descendit jusqu'au Louvre, et par les rues Saint-Honoré, croix des petits champs et du Boulois, on atteignit la rue Coqueron et l'on entra dans la cour de l'hôtel. Pour faire durer son plaisir, Frédéric s'habilla le plus lentement possible, et même il se rendit à pied au boulevard Montmartre. Il sourirait à l'idée de revoir tout à l'heure sur la plaque de marbre, le nom chéri. Il leva les yeux, plus de vitrines, plus de tableaux, rien. Il courut à la rue de Choiseul. Monsieur et Madame Arnoux n'y habitaient pas, et une voisine gardait la loge du portier. Frédéric l'attendit. Enfin il parut, ce n'était plus le même, il ne savait point leur adresse. Frédéric entra dans un café, et tout en déjeunant consulta l'almanach du commerce. Il y avait 300 Arnoux, mais pas de Jacques Arnoux. Où donc logeait-il ? Pèlerin devait le savoir. Il se transporta tout en haut du faubourg Poissonnière à son atelier. La porte n'ayant ni sonnette ni marteau, il donna de grands coups de poing et l'appela, cria. « Le vide seul !» lui répondit. Il songea ensuite à Hussonnet. Mais où découvrir un pareil homme? Une fois, il l'avait accompagné jusqu'à la maison de sa maîtresse, rue de Fleurus. Parvenu dans la rue de Fleurus, Frédéric s'aperçut qu'il ignorait le nom de la demoiselle. Il eut recours à la préfecture de police. Il erra d'escalier en escalier, de bureau en bureau. Celui des renseignements se fermait. On lui dit de repasser le lendemain. Puis il entra chez tous les marchands de tableaux qu'il put découvrir, pour savoir si l'un ne connaissait point Arnoux. Monsieur Arnoux ne faisait plus le commerce. Enfin, découragé, harassé, malade, il s'en revint à son hôtel et se coucha. Au moment où il s'allongeait entre ses draps, une idée le fit bondir de joie. Regimbard, quel imbécile je suis de n'y avoir pas songé. Le lendemain, dès 7 heures, il arriva rue Notre-Dame-des-Victoires, devant la boutique d'un rogomiste, où Regimbard avait coutume de prendre le vin blanc. Elle n'était pas encore ouverte. Il fit un tour de promenade aux environs, et au bout d'une demi-heure, s'y présenta de nouveau. Regimbard en sortait. Frédéric s'élança dans la rue. Il crut même apercevoir au loin son chapeau. Un corbillard et des voitures de deuil s'interposèrent. L'embarras passé, la vision avait disparu. Heureusement, il se rappela que le citoyen déjeunait tous les jours, à 11 heures précises, chez un petit restaurateur de la place Gaillon. Il s'agissait de patienter, et après une interminable flânerie de la Bourse à la Madeleine, et de la Madeleine au gymnase, Frédéric, à 11 heures précises, entra dans le restaurant de la place Gaillon, sûr d'y trouver son Regimbard. « Connais pas, » dit le gargotier d'un ton rogue. Frédéric insistait, il reprit. « Je ne le connais plus, monsieur. » Avec un haussement de sourcils majestueux et des oscillations de la tête qui décelaient un mystère. Mais dans leur dernière entrevue, le citoyen avait parlé de l'estaminet Alexandre. Frédéric avala une brioche et sautant dans un cabriolet, s'enquit près du cocher s'il n'y avait point quelque part, sur les hauteurs de Sainte-Geneviève, un certain café Alexandre. Le cocher le conduisit rue des Frambourgeois, Saint-Michel, dans un établissement de ce nom-là. Et à sa question, « Monsieur Regimbard, s'il vous plaît ?» Le cafetier lui répondit avec un sourire extra gracieux. « Nous ne l'avons pas encore vu, monsieur. » Tandis qu'il jetait à son épouse, assise dans le comptoir, un regard d'intelligence. Et aussitôt, se tournant vers l'horloge, « Mais nous l'aurons, j'espère, d'ici à 10 minutes, un quart d'heure, tout